France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il a réalisé le film de son ami Laurent Canté, disparu avant de pouvoir le terminer. Le très beau Enzo sort sur les écrans la semaine prochaine et le cinéaste Robin Campillo sera mon invité à partir de 13h. Mais cette émission ne démarre pas sans un plateau critique, aujourd'hui peinture et caricature, avec deux rétrospectives. Maximilien Luce, l'instinct du paysage, c'est au musée de Montmartre. Et GB, génie du dessin de presse, c'est à la BNF. Vous écoutez les Midis de Culture et ça vous va bien au teint. Et ces critiques, je vous les présente. Stéphane Coréard, éditorialiste au Journal des Arts.
Bonjour Marie.
Bonjour Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'Université Picardie-Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. On vous emmène du côté de Montmartre pour cette première exposition, d'abord parce qu'elle se tient au musée de Montmartre et ensuite parce que le peintre qui est célébré a beaucoup représenté son quartier dans ses toiles. Maximilien Luce, mort en 1941, s'inscrit dans le néo-impressionnisme sur les traces de Seurat, on le dira aussi pointilliste. En une centaine d'œuvres, cette rétrospective, la première depuis 1983, se penche plus particulièrement sur les paysages qui peuplent toute son œuvre. Paysages urbains, avec par exemple la construction du Sacré-Cœur, les travaux d'Haussmann, les fourneaux des usines, et paysages ruraux, avec la Seine en majesté, évidemment. On commence avec quelques mots rapides, Stéphane Coréard.
Oui, c'est une exposition qui est à mon sens remarquable et même peut-être exemplaire par le choix des œuvres, le séquençage, l'accrochage et la remise en lumière d'un peintre qui est considéré comme secondaire dans l'histoire de l'art, mais dont l'importance, je trouve, s'affirme grâce à cette rétrospective. Loin des ruptures spectaculaires de l'avant-garde, son œuvre se distingue avant tout par une grande liberté qui est en cohérence avec ses convictions politiques anarchistes, ni Dieu ni maître, sa devise vaut aussi pour sa peinture.
Sally Bonne.
Ah, c'est une exposition absolument passionnante qui montre la figure double de Maximilien Luce, parce que comme le Montmartre qu'il peint quand il s'y installe, double parce qu'il est à la fois le tenant du pointillisme d'après Seurat, mais aussi d'une peinture avec des aplats de couleurs plus vaporeux. Il est aussi le peintre de la ville en chantier, mais aussi des bords de Seine à la campagne, d'un goût pour la nuit et en même temps des couleurs absolument chatoyantes. Et cette figure double est peut-être ce qui l'a rendu moins reconnaissable dans l'histoire de l'art. Et en même temps, qui, on le constate dans l'exposition, rend son œuvre à la fois sensible et très intéressante.
Ouais, donc ça répare une injustice, c'est ça Stéphane Coréard, on le remet sur le devant de la scène.
C'est-à-dire que l'histoire de l'art aime bien les ruptures. Mm-hmm. C'est spectaculaire, ça permet de raconter une histoire, il y a une forme de radicalité, de violence aussi d'une certaine manière, de puissance. L'histoire de l'art ne se résume pas à ça. Et pour ça, l'écrin aussi de ce musée de Montmartre, je voudrais d'abord en dire deux mots, est magique parce que c'est un endroit exceptionnel qui est champêtre en plein Paris, qui fait revivre effectivement l'esprit de Montmartre artistique d'antan, au milieu de ce Montmartre touristique d'aujourd'hui. C'est un musée complètement privé, mais qui propose une des programmations, à mon avis, les plus stimulantes des musées parisiens, avec le Petit Palais, qui est à la fois cohérente, surprenante, exigeante, et avec un vrai travail d'histoire de l'art, qui, pour un lieu privé, est étonnante, parce que beaucoup de musées publics, aujourd'hui, ne se permettent pas plus de s'aventurer, justement, du côté de figures qui sont parfois considérées comme secondaires. On a vu là-bas Herbin, dont on a parlé récemment, Otto Frölich, d'Aurignac, qui sont en fait des artistes majeurs qu'il faut reconsidérer aujourd'hui, et donc j'incite nos auditeurs, même quand on n'a pas l'occasion d'en faire la critique ici, à aller voir les expositions du musée de Montmartre. Ils ne seront jamais déçus. Cet état d'esprit, justement, à la fois pointu, curieux, en éveil, va parfaitement avec Maximilien Luce, qui est effectivement le peintre anarchiste, qui est notamment connu pour avoir été un des plus proches de Félix Fénéon, l'auteur des Nouvelles en trois lignes, qui était le plus grand critique d'art de son temps, et sans doute, Marie, je le dis aujourd'hui, le plus grand critique d'art tout court. C'est comme ça, d'ailleurs, que Jean Paulhan a préfacé ses écrits aux éditions Gallimard. FF ou LE critique, avec un LE majuscule. La rétrospective montre que justement Maximilien Luce, son ami, est en permanence effectivement en cohérence avec ses convictions anarchistes qui s'affirment très tôt par les sujets, certes, on va y revenir, hein, ça exalte la beauté et les bonheurs simples de la vie quotidienne ouvrière, les conquêtes de la vie moderne, on en a parlé, ça ne dédaigne pas non plus parfois d'être ouvertement politique et très engagé, mais surtout je dirais par sa position d'artiste qui par exemple dédaigne les grandes compositions démonstratives, il y en a quelques-unes dans l'exposition, et à mon avis, c'est les moins réussies. On le sent un peu engoncé, endimanché, en fait, comme un ouvrier qui mettrait ses habits, vous voyez, de noces, mal à son aise. Mais en revanche, dans les petits formats, dans les techniques modestes, dont les lithographies, par exemple, les dessins, il est en revanche à son top parce qu'il réfute tous les dogmes. Il participe, effectivement, vous l'avez dit, au post-impressionnisme, pardon, mais un tableau comme Le Jardin sous la neige, rue Cortot de 91, est peint avec des grandes touches expressionnistes à la Van Gogh, tandis que Paramé par Grotan, un tableau plus tardif de 1934, serait comme une espèce d'un réalisme emphatique à la Courbet. Donc c'est quelqu'un qui a une palette extrêmement large et qui ne se résume pas à l'image qu'on avait de lui jusqu'alors.
Sally Bonne, c'est ce que vous disiez aussi, on va avoir une technique totalement différente en fonction des périodes, des époques chez lui.
Oui, alors c'est ça qui est un peu surprenant, et en même temps, il n'y a pas de, c'est pas une évolution chronologique, voilà. On se dit pas, tiens, il est passé du pointillisme, il est revenu à une forme à la fois mélange entre impressionnisme et effectivement, comme le disait Stéphane Coréard, un peu expressionniste, mais on a l'impression qu'il navigue entre différents modes de représentation. Alors, je ne saurais pas dire exactement si ça correspond à une volonté de représentation elle-même, c'est-à-dire ça correspondrait à un motif. C'est pas tout à fait le cas, parce qu'on voit aussi bien des paysages de bord de Seine qui sont peints selon cette technique pointiste, qui est pas exactement la même que Seurat, parce qu'il est pas, il travaille pas de la même manière sur des jeux de complémentaires, c'est-à-dire de mettre un jaune avec un bleu avec un jaune pour faire du vert, mais ouais. Mais plutôt dans des couleurs un peu plus camailleux, on va dire, et en même temps avec un éclat qui est très singulier et qui se sent aussi bien dans les représentations de paysages qui sont extrêmement belles. Les effectivement, je suis d'accord avec Stéphane, les petits tableaux des bords de Seine de la fin des années 90 sont absolument splendides. Mais quand il va, par exemple, parce qu'il peint beaucoup Paris, il peint beaucoup, et vous l'avez dit, il peint beaucoup Paris en chantier, c'est vraiment aussi, c'est un peintre de son temps et il est à la fois engagé, on l'a évoqué dans une dimension politique, engagé politiquement et dans son art, mais il est aussi engagé dans son époque, c'est-à-dire qu'il regarde ce qui est en train d'advenir, il regarde les changements de Montmartre dans lequel il vit plus d'une dizaine d'années, où il revient régulièrement pour peindre, il peint les échafaudages, les tableaux de chantier sont absolument extraordinaires, hein. C'est vraiment magnifique, avec des horizontales, des verticales, des obliques, et on voit ces échafaudages en bois, avec toujours un souci, et c'est là aussi où la dimension politique est importante, un souci de l'humain, et dans presque tout, à part les paysages de bord de Seine, et encore, dans presque tous ces tableaux, il y a une représentation humaine. Alors, elle est parfois esquissée, c'est-à-dire on voit des foules, notamment dans les représentations de Paris, des foules. Il peint Notre-Dame et on voit la foule au pied de Notre-Dame. Il peint le chantier et il peint les ouvriers en train de travailler sur le chantier. Il y a toujours cette dimension humaine qui le rend aussi singulier dans son histoire. Et donc cette évolution-là, enfin, ces modifications, on va dire, stylistiques, elles sont pas liées justement à ce motif, mais peut-être à une volonté de rendre compte d'un certain type de, comment dire, de couleur, de lumière aussi, et justement sur la question de la lumière, aussi bien on la voit éclater dans les touches des représentations de paysages, mais quand il va tout d'un coup à Charleroi, voilà. Parce qu'il est invité à Charleroi et il va peindre des aciéries, des usines, voilà. Des usines, et là c'est l'éclat des couleurs, mais le feu, en fait, c'est il monte le feu des hauts fourneaux qui éclate au milieu du tableau, qui sont des tableaux très sombres, et ça c'est aussi assez fascinant.
Pour revenir sur son engagement politique, il l'a payé cher et il l'a décidé.
Oui, absolument. C'est un des passages passionnants de l'exposition, qui est consacré à Mazas, du nom de la prison où ont été enfermés les anarchistes parisiens à la suite de l'assassinat du président Sadi Carnot. Vous vous en rappelez, Marie, comme moi, à Lyon en 1994. Il a réalisé des dessins sur le motif, hein, qu'on voit là dans l'exposition. Il y a surtout un album de lithographie qui porte ce titre et qui était destiné justement à être accompagné d'un texte de Fénéon, qui a été incarcéré en même temps et pour les mêmes motifs, même si Luce n'a pas été enfermé pour activisme politique, pour des actes, mais en fait pour les dessins qu'il donnait régulièrement aux publications anarchistes évidemment gratuitement. Finalement, c'est un récit de Jules Vallès, le fondateur du journal Le Cri du Peuple, qui était élu lors de la Commune de Paris, puis condamné à mort, qui s'est exilé et qui a lui-même été embastillé à Mazas quelques décennies plus tôt, finalement qui accompagne cet ouvrage, ce portfolio de lithographie. Ce qui est très intéressant, ça fait un lien entre la Commune de Paris et les attentats anarchistes de la fin du 19e. Ça dessine en fait ce creuset intellectuel et politique qui, à ce moment-là, a forgé toutes les avant-gardes, finalement, et ça perdurera jusqu'au surréalisme, qui lui-même voulait se mettre au service de la Révolution. Il n'y a pas de révolution chez Luce, mais son nom, et je reviens sur la lumière, parce que son nom, Luce, qui pourrait se prononcer Luce en italien, la lumière, effectivement, de manière presque lacanienne, lui donne la direction de sa peinture, parce que il est d'une sensibilité, je trouve, extrêmement intelligente à la lumière. Par exemple, il la représente comme personne ne la représente. Il y a un coucher de soleil, ça s'appelle Paysage soleil couchant, 1888. Au départ, c'est un tableau qui paraît assez plat, assez post-impressionniste. Et puis en fait, finalement, on ne voit pas le soleil couchant. Il est où ? Il est derrière un bouquet d'arbres. Et en fait, il n'est perceptible qu'à travers le halo rouge incandescent qui irradie tout autour en fait des arbres qui, eux, sont en contre-jour. C'est absolument sublime, j'ai jamais vu ça. Effectivement, aussi dans les lumières modernes, par exemple dans la forge de la Scierie, 1898, dont a parlé Sally, mais aussi les premiers réverbères dans la ville, hein, dans la lithographie, par exemple, rue Ravignan, une vue de nuit. Effectivement, je voudrais revenir sur ces tableaux de Belgique qui sont, à mon avis, le moment... terrassant de l'exposition. La salle s'appelle Le choc du pays noir et c'est un titre particulièrement bien trouvé parce que le visiteur ressent ce même choc. Moi, j'ai jamais vu des représentations comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent que il représente cette Belgique industrieuse en plein jour. Néanmoins, c'est des vues qui semblent nocturnes tellement la poussière de charbon remplit l'espace. Le ciel est violet. On se croirait dans un tableau de Dylan Redon. C'est-à-dire, c'est à la fois réel, surréel. C'est vraiment, on voit qu'il se forge pour chacun de ses projets et ça, c'est très contemporain, je dirais, des moyens picturaux inédits qui vont avec ce qu'il veut représenter, avec la sensibilité que ça lui inspire. Je voudrais juste vous citer une phrase de Fénéon qui parle justement de ces tableaux et qui, je pense, dissèque la méthode singulière de Maximilien Luce. Il parle de ces tableaux de Charleroi, il dit « Ces choses remarquables qu'il n'est ni exagéré en féerie pyrotechnique le flamboiement des forges, ni en drame la hideur des hauts fourneaux et des terrils. Pour marquer de son originalité les spectacles qu'il recrée, il n'a que faire de l'emphase. Son œuvre s'est toujours vivifiée d'un réalisme supérieur. »
Et alors, comment on explique, selon vous, qu'il soit resté un peu dans l'ombre des Seurat, etc.
Justement parce qu'il c'est pas un artiste de la rupture. C'est ce que nous dit Fénéon. Il n'est pas dans l'emphase, mais il atteint un réalisme supérieur. Mmh. C'est vraiment un artiste de la subtilité. Une exposition, pour ça, je trouve, le commissariat est remarquable, parce que sans aucune démonstration, sans avoir besoin de texte qui serait superflu, en fait, uniquement par le regard, les commissaires ou la commissaire nous guident en fait à se saisir complètement de cet art, à découvrir aussi des aspects, je l'ai dit, un petit peu moins connus. Il y a un petit dessin au tout début qui appartient à la collection de Rosenberg, l'ancien conservateur du Louvre, qui est absolument sublime, un tout petit dessin qui est aussi beau qu'un dessin de Seurat, ce qui est un compliment majuscule. Il y a aussi des incursions du côté de l'art décoratif, des arts décoratifs que pour ma part je ne connaissais pas, des céramiques, des boîtes de bois peintes, et effectivement ça éclate dans une espèce de joie de vivre. À la fin de sa vie, il habite dans les Yvelines, à côté de la Seine. Voilà. Et là, il représente des scènes de baignade, et on pense évidemment à la Grande Jatte de Seurat, qui est quand même le maître de cette période.
Oui, j'aimerais bien qu'on revienne un peu justement sur ces œuvres tardives, on va dire, où il habite, oui, dans les Yvelines, au bord de la Seine.
Il y habite longtemps, mais en même temps, il est toujours aussi à Paris, c'est-à-dire qu'il fait des allers-retours tour entre sa campagne, où il s'installe véritablement. Il y a aussi cette dimension assez peut-être à la fois humaine et humaniste, c'est-à-dire qu'il est toujours accompagné d'un certain nombre de personnages qui sont aussi bien ses amis peintres. Et d'ailleurs, l'exposition s'ouvre à la fois sur un tableau qui s'appelle La Toilette, qui représente un ouvrier en train de se laver avec cette touche un peu pointilliste. Et en face, il y a un ensemble de portraits de ses amis peintres. Il y a Pissarro, il y a Signac, il y a Seurat, il y a Cros, il y a Georges Tardif, Jules Antoine. Et à la fin de sa vie, on le voit aussi dans cette maison où il s'installe sur les bords de Seine, qui va peindre beaucoup, comme il le peignait à la fin des années 90, et qui continue à peindre avec peut-être quelque chose d'un peu plus... La touche, c'est fluidifié, c'est comme épanché, et il représente... Il y a un tableau très beau, d'ailleurs, qui est un bord de rivière, avec des enfants ou des jeunes qui se baignent, qui est avec des touches... Le tableau est complètement vert, à part les baigneurs, ailleurs, qu'on retrouve dans d'autres tableaux, d'ailleurs, notamment dans le Sud. On sent que la lumière du Sud a été peut-être moins évidente pour lui, mais que les lumières du Nord. Et ce tableau est vraiment absolument magnifique. Et il est aussi dans cette ville accompagné de d'autres peintres qui viennent le voir régulièrement et puis de ses amis. J'aurais juste revenir oui. peut-être sur un point qui est assez singulier aussi dans toute à la fois dans sa peinture et aussi dans sa position. D'abord c'est il y a quelque chose et je voudrais notamment sur la manière dont il regarde la ville, les villes et les paysages. C'est quelque chose qui m'a frappé en traversant l'exposition. On n'a pas besoin d'aller regarder un cartel. On voit un tableau, on sait que c'est la Belgique. On voit un autre tableau, on sait que c'est Paris. On voit un autre tableau, on sait que c'est les bords de Seine. Tout d'un coup, en fait, ou Rotterdam, ou Saint-Tropez, il a une capacité extrêmement forte de saisir quelque chose qui serait l'atmosphère d'un paysage, d'une ville, d'un pays, d'un territoire. Et ça, c'est quand même assez fort. Mmh. Et dernier point, peut-être aussi sur la question de l'engagement, c'est quand même assez singulier aussi, parce qu'il était effectivement anarchiste à la fin du 19e siècle. En 1940, avant sa mort, il démissionne de la présidence de la Société des artistes indépendants, où il a succédé à Signac pendant de longues années, pour protester contre l'exclusion des Juifs sous Vichy. Donc, fallait le signaler.
Oui, c'est pas mal de le signaler, effectivement. Maximilien Luce, l'instinct du paysage. C'est donc dans ce très beau musée, le musée de Montmartre, jusqu'au 14 septembre 2025.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
L'intérêt de dessiner ou de raconter, d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, quand même. On sait un peu ce qu'on a dans la tête. On a une direction, mais les rencontres, les découvertes et les trouvailles, ça se programme pas. Hein. On se met dans la condition de trouver, de voir. Dès que je m'éloigne du plaisir de raconter, d'écrire, de dessiner, tout ça, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ou alors, c'est que j'accumule des matériaux, ou que je regarde, ou que je cherche à regarder derrière le réel pour y voir d'autres choses, et puis revenir très vite pour le raconter, quoi.
La voix un peu gouailleuse de GB, c'était en 1992. C'est à cet immense dessinateur de presse, satiriste, auteur de bande dessinée que la Bibliothèque nationale de France consacre une rétrospective en ce moment. Elle est gratuite. GB, alias Georges Blondeau, c'est l'histoire d'un dessinateur industriel à la SNCF qui un jour décide de tout arrêter et de rejoindre la bande de ceux qui vont monter Harakiri, Pilote, Charlie Hebdo. En 16 grands panneaux, on suit son crayon, plus tendre que mordant à travers les époques. On rit, citons la une de Pilote du 18 février 1971, la première couverture couleur en noir et blanc, ou encore Harakiri, Noël 70, pensez au mal aimé, invitez un flic. L'expo nous rappelle aussi l'aventure de l'an 1, cette BD interactive et décroissante qu'il avait lancée en 1970. On commence avec un avis rapide, Sally Bonne.
Alors c'est moins une exposition qu'une présentation, assez riche d'ailleurs de l'univers de GB. Le récit agrandi de l'œuvre d'un dessinateur, plus discret peut-être et plus tendre aussi en ce sens qu'il était moins présent que ses compagnons de route qu'on connaît, Cavana, le professeur Choron, Reiser, Cabu, Wolinski, etc. C'est quand même un parcours singulier de la vie du rail à Charlie Hebdo. C'est un pan de l'histoire de la presse française, du dessin de presse et de la politique française.
Stéphane Correa.
Oui, alors il est passionnant, je trouve, d'évoquer maintenant GB après Luce, parce que leurs œuvres trouvent des échos surprenants. En effet, ils sont tous deux issus d'une réalité sociale marquée par l'essor de l'ouvriérisme urbain. Ils partagent aussi une position de retrait par rapport au groupe auquel on les a rattachés, comme l'a dit Sally Bonne. Un engagement profondément enraciné, un humanisme sans aucune mièvrerie, et surtout un anti-autoritarisme absolument et constamment revendiqué. Les exemples que vous avez cités, Marie, je crois, en attestent. Passer la surprise d'abord d'une exposition sans originaux, il faut le dire, à cause de son emplacement et de sa durée, mais elle est gratuite et c'est un parti pris, on y reviendra, assez intéressant. Je trouve que cette première monographie montre effectivement un génial dessinateur et permet surtout de prendre la mesure de son inventivité totalement débridée qui, en phase avec son époque, a débordé dans tous les champs connexes du dessin et de l'écriture qui, chez lui, sont toujours intimement liés, comme on l'a entendu dans votre archive.
Voilà, et c'est vrai que GB, c'est un style assez éclaté. Il a fait aussi du roman photo, des couvertures, des affiches, voilà. Donc comment on peut définir un peu son style, Sally Bonne?
Son style, il...
C'est
D'abord, il change ouais. beaucoup. Et on le voit, c'est l'intérêt de la, comment dire, de la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire le long couloir de la BNF. Alors, on peut regretter l'absence d'originaux, mais en même temps, on voit quand même des dessins très agrandis, ce qui permet de saisir quand même le trait et de voir l'évolution de ce trait qui, dans, au départ, il travaille à la vie du rail. C'est quand même assez amusant. Il vient de Villeneuve-Saint-Georges, où il y avait, c'était un nœud ferroviaire très important. Et il est engagé dans la vie du rail comme dessinateur industriel, vous l'avez dit. Et puis, en fait, son dessin se décale un peu ou se déplace. Et on a d'ailleurs l'impression qu'il est toujours... Il se situe toujours un tout petit peu à côté, partout où il va, et cette position-là, elle est assez à la fois intéressante et c'est ce qui rend son œuvre touchante. Et donc on a un trait au départ qui est très fin, très léger, il dessine des silhouettes, des contours. C'est une sorte de ligne très fine, pas une ligne claire mais une ligne fine où les personnages se désignent en quelques traits et puis progressivement on voit le dessin se charger un petit peu plus, la feuille aussi, enfin l'espace de la feuille se charger un petit peu plus et puis aussi avec l'apparition des lettres, enfin des mots, des phrases. Et donc sur des dessins très blancs du départ, on arrive à la fin avec c'est très beau de les voir comme ça, et c'est peut-être l'intérêt de l'absence d'originaux, c'est que on voit l'immensité des colonnes qu'il a réalisées pour Charlie Hebdo dans les années 80-90, je crois, qui étaient en fait des grands, ce qu'il appelait des papiers à lettres, où il dessine depuis son intérieur, la maison où il vivait à la campagne, et où en fait ces intérieurs sont remplis, dessinés très nettement, mais en même temps remplis de phrases qui viennent en fait de l'actualité, de l'information. Et donc cette œuvre-là, à la fois la dimension humoristique, la dimension politique aussi, très nettement visible. Et puis il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du détournement, la photographie, vous l'avez dit, les romans photos, le professeur Choron. Il a fait aussi des sortes de... C'est assez, la formule est très belle, des films en papier, des récits qui sont en fait comme des petites mini-BD qui étaient presque quotidiennes, qu'il appelait des récits en papier parce qu'il avait aussi un goût pour le cinéma. Il en a fait, puisque vous avez cité l'an 01, qui était d'abord des planches qui étaient régulièrement publiées. Et puis, en fait, il a fait avec Jacques Doyon ce film, l'an 01, qui a été effectivement un moment aussi d'utopie, et il est à la fois toujours un peu à côté mais toujours aussi presque, vous avez parlé de décroissance, c'est quand même un des premiers qui signale la nécessité d'avoir un regard sur l'état de la planète, par exemple. On voit les dessins de la fin des années 60 où il alerte, et d'ailleurs c'est toujours, il y a toujours une part d'humour, mais il y a quand même cette inscription dans une réalité politique, culturelle, écologique en l'occurrence.
Stéphane Correa.
Oui, je voulais citer un autre de ces slogans cultes qui est très anarchiste. C'est lui qui a créé ce slogan, achetez Harakiri, et si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le.
Ouais, ça, oui, c'est génial.
C'est quand même
ça.
Assez incroyable. En fait, il a effectivement, tout ce que vous avez dit est vrai, et d'ailleurs, rien que l'invention du personnage du professeur Choron, du roman photo et des fausses publicités dans Harakiri, lui vaudrait sa place éternelle au panthéon de la déconnade du XXe siècle. Mais il a surtout inventé, je pense, une forme qui est déterminante et qui ensuite a fait florès, c'est le journalisme dessiné. Dans quel contexte il invente justement ce journalisme dessiné qui n'existait pas avant lui, c'est que à l'époque Harakiri est un mensuel dans lequel il n'y a pas de place pour l'actualité et chaque dessinateur, chaque auteur a son quota de pages qu'il remplit à sa guise. Alors ça, c'est la période qu'on voit très bien dans l'exposition où il invente graphiquement des choses incroyables, où d'un coup c'est des lettres qui deviennent des objets qui envahissent tout, puis parfois c'est que graphique, parfois c'est un seul dessin, enfin ça lui donne une liberté extraordinaire. Et puis, de ne pas être payé par le professeur Choron qui tenait les cordons de la bourse en fonction des fluctuations de la vie d'Harakiri, parce que tout ça est aussi une histoire de l'entrepreneuriat de presse assez passionnante, parce que ces gens ont dû s'inventer leurs propres outils aussi et leurs propres, conditions matérielles de survie. Et ils ont été finalement esclaves de leur liberté, mais ça leur a donné aussi une énergie folle. Et donc, en fait, ils passent chez Pilote en 65, qui est la revue dirigée par Goscinny, qui est la revue vue d'Astérix, etc. Et là, il y a des pages d'actualité qui sont ouvertes à tous. Et GB, à ce moment-là, découvre ce rythme hebdomadaire qui lui permet de réagir. Et il le fait à sa manière, c'est-à-dire en dessinant et en racontant. Il réagit à l'actualité la plus brûlante. Et c'est là où, effectivement, on voit que ces combats, parfois en accompagnant le féminisme radical déjà de l'époque, pour l'écologie, Salih Bonlhadi, pour l'anticolonialisme, pour l'antiracisme, etc., prennent forme. Et Choron et Cavanna, qui eux sont restés à Akiri, maintiennent le flambeau, sont tout à fait à la fois épatés par cette évolution et jaloux, et ils créent à Akiri Hebdo, en plus du mensuel, pour y faire revenir GB, qui à ce moment-là va inventer en fait le Harakiri, reflet de l'actualité, commentaire de l'actualité, etc., où d'ailleurs il signe quelques-unes des unes qui sont là dans l'exposition et qui sont vraiment inoubliables. Par exemple, tête de nœud président, ouais, pour l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et deux ans après, pour Jimmy Carter, un intemporel, l'Amérique a chié un président qui pourrait resservir. Il a effectivement dans ses... il y a des dessins épatants. Il y a un dessin sur l'inauguration du Centre Pompidou qui est à mourir de rire, où il raconte façon, on dirait Tom Wolfe dans Le Gauchisme de Park Avenue, où il raconte cette comédie déjà qu'est le monde de l'art. C'est hilarant. Et puis, parfois, c'est donc le texte qui, d'un coup, va courir le long d'une sculpture, une espèce de sculpture un peu absurde, comme dans
ce dessin. Oui, il y a des choses assez absurdes, hein, aussi.
Ah oui, il y a profondément un sens de l'absurde. Et puis, jusqu'en 2000, hein, jusqu'à la fin, il y a un hilarant catalogue pour les Français prêts à consommer plus, où là, au contraire, il dessine donc dans sa colonne le plus long fusil pour tuer les canards en vol à bout portant, et la plus, c'est tout à fait de saison, la plus géante glace en cornet, jusqu'à 60 parfums.
C'est génial. Salih Bonne.
Oui, alors, pour revenir sur les... J'ai noté quand même, et j'aimerais bien le faire entendre, cette alerte qui date de la fin des années 60, qui est « Bientôt la Terre ne sera plus une planète habitable », disent les savants. Et donc, c'est un dessin qui représente un globe, et sur le globe, on voit des zones où il y a, comment dire, des motifs qui sont légendés ensuite. Donc on a des nuages, on a des arbres coupés. Et donc pour les arbres coupés dans l'Amérique du Sud, il y a une légende qui dit « Zone déboisée, plus de forêt, plus de chlorophylle, donc plus d'oxygène, ni de dentifrice, disparition de ceux qui ont la laine fraîche.
» C'est pas mal. Si vous avez un dernier à nous
citer. Oui, je voudrais citer, j'ai découvert la chanson que Yves Montand lui a demandé d'écrire à la suite d'un dessin qu'il avait fait, qui s'appelle « Ils m'ont tapé sur la tête » en 78, qui est une drôle de chanson qui unit de manière saisissante la lutte contre les violences policières, le racisme et la souffrance animale, en régissant un fait divers d'actualité qui était la mort du philosophe tchécoslovaque Jan Potocka, qui était un compagnon de route de Vaclav Havel et qui a été tué lors d'un interrogatoire policier particulièrement musclé. Et c'est un homme qui ne se rappelle plus pourquoi il est mort et pourquoi on lui a tapé dessus. Et ça se termine par ces deux phrases. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur immigré, philosophe, résistant, caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure ? Je suis mort, répondez-moi, je m'appelais Yann Potocka, argentin et bébé phoque arabe, maintenant ça me revient.
Merci, merci beaucoup. Merci Salih Bonne, merci Stéphane Coréard. Je rappelle, GB, un génie du dessin de presse. C'est jusqu'au 19 octobre à la BNF, sur le site François Mitterrand évidemment. Et on l'a déjà dit, mais on le répète, l'exposition est gratuite. Maintenant, vous qui nous écoutez, c'est à vous de vous faire une idée.